Accent d'Europe, Catherine Roland.
And one has to wonder now, who is in charge? Who's running Britain?
Bonjour à tous. À un mois et demi de l'échéance, les députés britanniques restent plus que jamais divisés sur le Brexit. Mais profitant du débat, plusieurs élus de la Chambre des communes se sont malgré tout fait un nom. C'est le cas de la conservatrice Anna Soubry, députée de Broxtowe, dans le nord de l'Angleterre, depuis 2010. Cette fervente européenne au franc-parler a voté contre le Brexit et elle soutient l'idée d'un second référendum. Marie Billon.
Is Anne Soubry. Anna, so why are you calling for a second vote?
This man has
I've not swore at you.
Il y a peu, on ne connaissait pas son nom. Certains d'ailleurs ne le connaissent toujours pas, comme cette activiste pro-Brexit qui s'acharne à l'appeler Anne et non Anna Soubry. James Goddard et d'autres personnes portant le gilet jaune ont plusieurs fois suivi la députée aux abords du Parlement pour la harceler et l'insulter. Ils se sont filmés et ont mis la vidéo sur les réseaux sociaux.
A disgrace to the country and a disgrace to the people of the country.
Après l'avoir accusée d'être une traître à la patrie, une honte pour la nation, James Goddard, qui est proche du groupe d'extrême droite English Defence League, demande à Anna Soubry pourquoi elle veut un second référendum. Ce à quoi elle répond avec un calme très british, oh mais parce que c'est une très bonne idée.
You are a traitor. You are a traitor to this country. You are on the side of Adolf Hitler.
L'individu accuse alors la députée de faire le travail d'Adolf Hitler. Elle devrait commencer désormais toute intervention par un salut nazi, dit-il.
You might as well start doing your Hitler salute now, you Nazi.
La manière dont Anna Soubry a été traitée a été condamnée par ses collègues parlementaires, quelle que soit leur couleur politique ou leur opinion sur le Brexit. À cause de son soutien pour un vote populaire, elle est devenue une rebelle au sein de son parti et une cible pour les plus véhéments des Brexiteurs. Et même si elle n'avait pas l'habitude de briser les rangs avant le référendum, aujourd'hui, elle ne mâche pas ses mots, comme le 29 janvier dernier au micro de la BBC.
Je trouve que tout ce qui se passe en ce moment est très inquiétant. Je vois mon parti qui dérive à droite, mais le pire, c'est que la qualité des dirigeants dans mon parti et chez les travaillistes est lamentable. Ils donnent tous la priorité au parti et pas à la patrie. Je vous assure que les gens comme moi mettent le pays et les électeurs en toute première place. Mais quand je vois ce qui se passe dans mon parti, ça me désole et je me désespère de ce qui est en train d'arriver au Royaume-Uni.
Sous David Cameron, l'ex-premier ministre, Anna Soubry était accusée d'être une bénie oui-oui. Elle a occupé trois secrétariats d'État de 2012 à 2015. Depuis, elle est devenue la chef des conservateurs de gauche, d'après le site Conservative Home, une pro-Europe, pro-immigration, socialement libérale. Mais si elle est parfois accusée de catastrophisme et de peindre un no deal Brexit comme une apocalypse, elle sait aussi parfois détendre l'atmosphère. En 2013, invitée sur une émission politique de la BBC, elle avait fait une réflexion sur Nigel Farage, alors chef du parti eurosceptique UKIP. J'ai toujours pensé qu'il avait la tête de quelqu'un qui s'était mis les doigts dans les fesses et qui s'était rendu compte qu'il aimait plutôt ça. Autre mot d'esprit, plus grand public, quand en janvier dernier, une Britannique lui demande de prendre la place de Theresa May à Downing Street, elle répond « Je crois que les Britanniques n'en peuvent plus des femmes conservatrices de 62 ans ». La députée et la première ministre sont en effet toutes deux nées en 1956. Pour l'instant, Anna Soubry n'appelle pas à la chute de Theresa May. En revanche, elle veut que le Parlement soit plus entendu et écouté. Les élus du peuple devraient pouvoir proposer leur propre Brexit si le gouvernement ne trouve pas d'accord. Et ensuite, précise la députée, il faudrait demander aux Britanniques si cela leur convient en organisant un vote populaire, autrement dit un second référendum.
You can't remove the plank. This does present a problem for the soft border patrol. Why is it you're allowed to come down here?
Connaissez-vous la Soft Border Patrol, une équipe de choc chargée de patrouiller à la frontière invisible entre l'Irlande du Nord britannique qui va quitter l'Union européenne et la République d'Irlande qui y reste? La question brûlante de la frontière en Irlande bloque toujours l'accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mais c'est donc sans compter sur cette Soft Border Patrol qui est en fait une série humoristique de la BBC où comment des policiers pas comme les autres maintiennent la frontière sans infrastructure douanière, comme le souhaitent d'ailleurs Londres, Bruxelles et Dublin dans la vraie vie. Julien Lagache.
I would say
And I don't want to boast, but I'd say we're pretty fantastic at reading people.
Voilà comment remettre une frontière sans remettre de frontière. Alors que les négociations du Brexit achoppent depuis le début sur cette insoluble équation, Soft Border Patrol apporte ses solutions pour assurer un contrôle efficace du trafic routier nord-sud sans réinstaller d'infrastructures douanières ou militaires comme par le passé. Experts en détection de comportements suspects, les agents de la Soft Border Patrol croisent régulièrement la route de Michael Flynn, cheveux frisés, mine patibulaire et l'air d'un homme qui a quelque chose à cacher. Dans cette scène, les policiers fouillent sa camionnette sans rien trouver pour une fois, mais remarquent qu'il porte un beau survêtement neuf au-dessus d'un autre et encore d'un autre. Le policier l'interroge pourquoi en superposer autant. Le suspect rétorque qu'il aime beaucoup le modèle et l'a donc acheté en plusieurs exemplaires. Mais on ne la fait pas au fin limier de la Soft Border Patrol qui flaire la combine. On ne peut pas laisser passer ça. En gros, il achetait ses survêtements en Irlande du Nord et allait les revendre au sud de la frontière en Irlande. C'est de la contrebande, affirme la policière.
So what happens now?
We keep those and be on your way.
Pink pants.
Magnanimes, les agents laissent repartir le coupable libre et en caleçon, mais ils affichent la satisfaction du devoir accompli. Légèrement loufoque et délicatement absurde, Soft Border Patrol est mené sur le mode d'un documentaire embarqué où les acteurs improvisent largement les scènes en maniant le pince sans rire et l'exagération afin de moquer la situation créée par le Brexit et les inquiétudes qui en découlent. La mini-série aux épisodes de 28 minutes s'en donne d'ailleurs à cœur joie pour tourner en dérision ou pousser jusqu'à l'absurde les façons de contrôler par exemple les futurs mouvements d'animaux, repérables selon la Soft Border Patrol à leurs accents.
When the cow said moo, if the cow went moo, it's from the Republic. If the cow goes moo, moo, Northern Irish cow.
Notamment les vaches et les chouettes.
If it goes hoo, 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 it's Monaghan, possibly Cavan. Hoo, 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 hoo.
Mais ce spécialiste explique que les poissons restent un problème.
Fish, what do you do with? Can't do anything there.
Avec son humour satirique, Soft Border Patrol est en tout cas la seule conséquence immédiate du Brexit qui fait rire les Nord-Irlandais. La BBC espère donc voir la mini-série continuer au-delà des 5 épisodes prévus cette année et surfer au maximum sur l'inspiration largement fournie par l'actualité.
Do I really want my grandchildren to say that? What were you doing during Brexit, Granddad? I was creating fish ghettos. Separating fish fathers from fish kids? I'm not doing that, it's ridiculous.
And Romeo wanted Juliet. Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo.
Il y a ceux qui ne rateraient pour rien au monde le petit bouquet de fleurs ou la table romantique pour fêter la Saint-Valentin. Il y a ceux qui trouvent cette fête horriblement commerciale. Et puis, il y a ceux qui préfèrent célébrer la fête des amis, comme dans les pays nordiques. Enfin, il y a de ces villes qui rappellent des amours tragiques. C'est le cas de Vérone, dans le nord-est de l'Italie, théâtre de l'histoire de Roméo et Juliette. Aujourd'hui, les amoureux du monde entier s'y rendent afin de visiter les lieux emblématiques des Capulet et des Montaigu, notamment la maison de Juliette. Au pied du célèbre balcon de l'héroïne shakespearienne se trouve une mystérieuse petite boîte aux lettres que Cécile de Barge a ouverte pour nous avec les Juliettes.
Au milieu des graffitis qui couvrent les murs de la cour de la maison de Juliette, une petite boîte aux lettres rouges renferme un secret. Chaque jour, des milliers de touristes et d'amoureux y laissent une lettre qu'ils adressent à la maîtresse des lieux.
On en a 4 nouvelles.
Chaque lundi, une jeune Véronaise vient recueillir ses lettres.
D'habitude, on en a bien plus. On reçoit énormément de lettres.
Elle enfourne les missives dans un grand sac et les emmène au club des Juliettes en plein cœur du centre historique de la ville. Là, elle retrouve 5 camarades, petites mains anonymes, qui répondent bénévolement auprès de 10 000 lettres qui arrivent chaque année. Giovanna Tamassia est la présidente de l'association.
On arrive à répondre à beaucoup de lettres, mais pas à toutes. Il se peut que l'adresse ne soit pas lisible, qu'on en reçoive beaucoup trop. Il se peut qu'on ne dispose pas de quelqu'un qui parle la langue dans laquelle elle est écrite. Donc c'est impossible de répondre à tout. Regardez la boîte des lettres en espagnol. Elle est pleine parce que ces 3 derniers mois, on n'a aucun hispanophone.
Sur une étagère, des caisses de vin débordent d'enveloppes à chacune sa langue. Russe, allemand, espagnol, français, anglais, japonais, parfois chinois, vietnamien ou polonais. Une fois les lettres classées par langue, elles sont réparties entre les bénévoles.
Il est possible que l'une de nous ne se sente pas à l'aise pour répondre à une lettre. Dans ces cas-là, on la repose et on la donne à une autre collègue. Chaque réponse, on la trouve à l'intérieur de nous-mêmes une fois qu'on a lu les lettres.
Les lettres sont adressées à Juliette, à cet amour symbole qu'elle représente.
Les gens écrivent beaucoup par solitude, parce qu'ils voudraient rencontrer le grand amour, parce qu'ils ont été abandonnés par l'être aimé et qu'ils ont le cœur en miettes.
Les détails que contiennent les lettres sont parfois très intimes.
Dans certaines lettres, ils nous écrivent « Chère Juliette, tu es la seule à pouvoir m'aider » ou bien « Chère Juliette, tu es la seule personne à qui je peux raconter ça ». Et ils nous dévoilent des choses extrêmement intimes. Pourtant, en dessous, ils donnent leur nom, prénom, nous envoient des photos. Ça semble incroyable qu'ils puissent se confier comme ça, à des inconnus, mais ils se confient vraiment.
Au fil des lettres, les Juliettes bénévoles découvrent des amours impossibles à cause de problèmes religieux, à cause de différences de caste ou de familles intolérantes. À chaque pays du monde, sa problématique. Parfois, certains confient pour la première fois des événements dramatiques qui durent depuis des années, comme cette femme battue italienne que les Juliettes ont réorientée vers un centre d'accueil pour l'aider à échapper aux griffes de son mari.
C'est normal quand quelqu'un vit un amour heureux, il le vit, c'est quand il va mal qu'il a besoin d'aide. Mais quand tout se passe bien, l'amour est une bulle qui se suffit à elle-même.
Si le Club des Juliettes est officiellement mandaté par la mairie de Vérone depuis les années 90 pour répondre aux lettres, la tradition est née à l'initiative d'un employé communal, Ettore Solemani.
Déjà au 18e, 19e siècle, les touristes avaient l'habitude de laisser des lettres d'amour sur la tombe de Juliette. Et puis un jour, quelqu'un a commencé à y répondre en signant « le secrétaire de Juliette ». C'est comme ça que la tradition est née dans les années 1930.
Aujourd'hui, la signature est simplement « Juliette », un mythe vieux de plusieurs siècles, plus vivant que jamais à Vérone, où les lettres arrivent encore plus nombreuses depuis la sortie du film américain « Lettre à Juliette » en 2010.
Certains guides touristiques les décrivent comme les plus belles ruines du monde antique qui méritent vraiment le détour. Le site d'Aphrodisia, situé dans l'actuelle Turquie, attire de plus en plus de visiteurs depuis qu'il a rejoint la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2017. Un Andlauer nous emmène dans cette cité dédiée à Aphrodite, la déesse de l'amour.
Ce qui frappe d'abord sur le site immense, c'est le calme, presque intimiste, au milieu de tout ce marbre éclatant au soleil. Quel contraste quand on y pense, avec le vacarme d'une grande cité qui fut, il y a quelques millénaires, école à ciel ouvert pour les meilleurs tailleurs de pierre. Les ruines d'Aphrodisia sont situées sur un haut plateau de l'Anatolie occidentale, à environ 230 km au sud d'Izmir, aux confins nord-est d'une région qu'on appelait autrefois la Carie. Bien qu'elle vit le jour il y a près de 7000 ans, c'est aux deux premiers siècles de l'Empire romain que la cité connut sa plus grande prospérité. Installée à proximité d'une carrière de marbre, Aphrodisia s'abritait à l'époque une prestigieuse école de sculpture, dont les artistes œuvrèrent dans tout l'Empire, certains sculpteurs gravant même leur nom dans la pierre. On retrouve leur signature, par exemple, sur les sublimes statues de l'empereur Hadrien dans sa villa de Tivoli près de Rome. Par chance, si l'on peut dire, des tremblements de terre suivis de coulées de boue ont enfoui sous terre les ruines d'Aphrodisias. Pendant des siècles, ces monuments ont donc été préservés de l'usure, des pilleurs, mais aussi des voyageurs occidentaux qui, pendant ce temps, se servaient copieusement dans d'autres sites voisins comme Pergame ou Éphèse. Les fouilles d'Aphrodisias ont commencé tardivement dans les années 1960 et elles sont loin d'être achevées. La visite se fait d'ailleurs au son discret des outils des archéologues. On admire à Aphrodisias des monuments qu'on ne voit pas ailleurs. Le Tétrapylon, porte monumentale, le Sébastéion, temple dédié au culte des empereurs romains, le stade datant du 1er siècle après notre ère et qui, avec ses 262 mètres de long, est le plus grand de toute la Turquie, l'Odéon, le théâtre ou encore l'impressionnant temple d'Aphrodite. Le musée à côté du site renferme une superbe collection de sculptures. Ces vestiges du passé, s'ils restent peu visités comparés à d'autres sites archéologiques turcs plus célèbres, attirent tout de même chaque année de plus en plus de visiteurs, à tel point que les autorités locales ont décidé en 2018 de renforcer la sécurité. Une soixantaine de caméras, dont 4 caméras thermiques, surveillent en permanence l'ancienne cité d'Aphrodite, appuyées par des drones de la gendarmerie locale. Rien de très romantique, mais des précautions nécessaires, alors que les archéologues déterrent chaque jour de nouveaux trésors.
I just wanted to thank you for sharing your world with me. It felt like home. Airbnb, belong anywhere.
Les amoureux qui pourraient bien utiliser une plateforme de location afin de trouver un nid douillet pour un week-end romantique. Sauf que ces sites du type Airbnb sont de plus en plus décriés par les villes européennes. À Paris, le torchon brûle entre la mairie et Airbnb. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, vient d'assigner à la firme américaine pour non-respect de l'obligation d'enregistrement des loueurs. Elle réclame 12 millions d'euros d'amende à la multinationale. Sur tout le continent, plusieurs métropoles ont pris des mesures pour endiguer une pratique déstabilisant le marché du logement locatif. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, faut-il se plaindre de pouvoir louer facilement et à bon marché des logements dans les villes touristiques ?
Bien sûr, cette forme d'économie collaborative satisfait de plus en plus une clientèle soucieuse de partager le mode de vie des populations locales. Mais il y a un envers du décor. Économique, d'abord, avec un secteur de l'hôtellerie de moyen confort déstabilisé par une très rude concurrence, mais également au niveau du marché du logement locatif traditionnel, en particulier meublé. On estime qu'à Paris, plus de 26 000 logements proposés jusque-là à la location de long terme ont disparu au bénéfice des locations de vacances beaucoup plus lucratives. Évidemment, la raréfaction de l'offre de logement fait monter les prix, y compris d'ailleurs les prix de vente. Les autochtones ont donc de plus en plus de mal à se loger de façon abordable dans les centres-villes touristiques. On le constate à Paris, mais aussi à Barcelone ou à Rome.
Daniel, est-ce qu'il y a d'autres nuisances collatérales ?
Oui, entre autres la disparition des commerces locaux au bénéfice de boutiques ciblant le loisir ou le bien-être selon une approche mondialisée, ou la propreté des rues et la gestion des ordures par une foule de vacanciers de passage, ou encore les nuisances sonores puisque les touristes débarquent souvent au milieu de la nuit ou cherchent ensuite à agrémenter leur séjour par des réunions aussi festives que tardives.
J'imagine que Paris est la ville la plus concernée par le phénomène Airbnb.
Paris, qui propose 60 000 logements à la location Airbnb, est devancé par Londres et ses 77 000 logements proposés. La capitale britannique est, il est vrai, connue pour la cherté de son hôtellerie et même de ses bed and breakfast. Ensuite, avec 20 à 30 000 logements proposés, viennent Rome, Copenhague, Berlin, Amsterdam et Barcelone.
Et quelles sont les métropoles qui cherchent vraiment à endiguer cette vague de plateformes ?
Parmi les cités qu'on peut qualifier de tolérante, on peut citer Rome, Copenhague, Londres ou Amsterdam. Ce n'est que très récemment que la capitale danoise a décidé de limiter à 60 jours par an la durée maximale de location autorisée. Même durée à Amsterdam, qui fixe en outre à 4 personnes le nombre de clients autorisés. Pas de limite à Rome, mais une taxe journalière de 3,50 € par client et par jour, soit un coût de 100 € pour une location d'une semaine à 4 personnes. À Londres, il existe une limite de 90 jours par an de la durée de location, au-delà de laquelle la location est délistée du site Airbnb. Mais cette limitation ne concerne que les logements entiers, ce qui explique la part importante d'offres de chambres dans la capitale britannique.
Et qu'en est-il des municipalités plus offensives ?
À Barcelone, outre une durée autorisée d'un mois par an, un système de licence d'exploitation a été mis en place avec un délistage systématique des offres sans licence. Plus de 2500 logements ont été ainsi retirés à la location en juin dernier. Dans certaines zones saturées, les nouvelles licences sont par ailleurs systématiquement refusées. Notons que la capitale catalane avait interdit totalement en 2015 la location touristique, mais la mesure fut un échec. Échec également à Berlin, où l'interdiction de louer des logements entiers a été abrogée en mars dernier. À la place, un système de licence a été instauré avec une limitation à 90 jours par an de la durée de location, assortie d'amendes qui peuvent être très lourdes, jusqu'à 100 000 euros. Une sévérité payante, 7500 logements sont revenus sur le marché locatif traditionnel à Berlin.
Alors comment se situe Paris dans ce panorama ?
Jusque-là, la municipalité parisienne s'est montrée plutôt modérée puisque la durée annuelle maximale de location est de 120 jours. Pour contrôler cette règle, un numéro obligatoire d'enregistrement a été également institué, mais 60% des offres en seraient dépourvues, d'où les amendes envisagées. L'accord intervenu entre le gouvernement et les principales plateformes touristiques sur le délistage systématique des locations illicites devrait cependant améliorer heureusement le respect des règles. En outre, sans aller jusqu'à l'interdiction des locations touristiques au centre de Paris, prônée par son adjoint chargé du logement, le communiste Yann Brossa, la maire de Paris vient de se déclarer favorable à limiter à un mois et non quatre la durée maximale de location.
Daniel Vigneron du site myeurope.info. À bientôt Daniel.
À bientôt Catherine.
Françoise Grelot était à la réalisation et à la mise en onde. Vous pouvez nous suivre évidemment sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. À demain.